Jean-Pierre Chevènement, bonjour.
Bonjour.
Alors, la sortie de l'Europe en tant que puissance dominante n'est-elle pas inéluctable face à la montée des pays émergents et notamment de la Chine ?
Vous savez, l'hégémonie européenne n'a pas attendu la montée de la Chine ou des émergents pour s'effacer. La perte de l'hégémonie par l'Empire britannique, car c'était lui qui jouait ce rôle avant 1914, mais enfin globalement, on peut dire des puissances européennes associées, a été le fait des deux guerres mondiales et s'est traduite par le passage de l'hégémonie justement d'un bord à l'autre de l'océan. Ce sont les États-Unis qui ont relayé la puissance hégémonique anglaise au XIXe siècle. Et depuis 1945, ce sont incontestablement les États-Unis d'Amérique qui sont l'hégémon de la deuxième mondialisation qui elle-même a induit le phénomène de l'émergence et la montée de la Chine. La Chine n'a pas encore rattrapé les États-Unis, loin de là.
Certes, mais le monde a carrément basculé du côté de l'Asie.
Le monde a basculé du côté de l'Asie. C'est assez normal parce que l'Asie concentre des milliards d'êtres humains, plus de la moitié de la population du globe. Donc il n'est pas anormal que le centre de gravité de la puissance économique se soit déplacé. Mais il ne faut pas non plus oublier que les États-Unis restent une très grande puissance, que l'Europe, du point de vue de l'importance de son marché, même de sa démographie, 500 millions d'habitants, n'est pas non plus devenue quantité tout à fait négligeable.
Quel regard portez-vous sur la fulgurante ascension de la Chine à la fin du XXe siècle ?
D'abord, je pense que la Chine a subi un siècle d'humiliation qui a relégué ce pays très loin du niveau qu'il avait atteint au début du XIXe siècle. Mais pour la Chine, de la guerre de l'opium jusqu'à l'installation de la République populaire de Chine en 1949, c'est un siècle d'humiliation, de démembrement du fait des puissances européennes, des États-Unis et du Japon qui a envahi la Chine et qui a mené une guerre extrêmement brutale et même impitoyable de 1931 à 1945. Donc la Chine, avec le Parti communiste, s'est rétablie et les transformations que Mao Tse-tung y a opérées au prix d'immenses souffrances et d'erreurs considérables ont néanmoins forgé un peuple uni qui, à partir de Deng Xiaoping, c'est-à-dire du successeur de Mao Tse-tung, s'est tourné vers l'extérieur. Et c'est l'alliance du Parti communiste chinois, lui-même héritier de toute l'histoire chinoise et des multinationales américaines, mais à leur suite japonaises, européennes, etc., qui a expliqué la mutation de la Chine dans ses provinces côtières d'abord, puis progressivement sur toute l'étendue de son territoire, sous l'égide d'un État stratège, c'est-à-dire pas seulement par l'effet du libéralisme, non, ce sont des stratégies économiques, mais appuyées sur l'attrait que le marché chinois exerce sur les grandes entreprises multinationales. Donc voilà, ce sont les capitaux qui ont afflué, mais au-delà des capitaux, ce sont les savoir-faire, les technologies et l'extraordinaire capacité du peuple chinois, parce qu'il faut quand même dire que les Chinois sont intelligents, travailleurs, et qu'ils ne sont pas encombrés, finalement, d'obstacles mentaux qui les empêcheraient de rentrer dans la modernité. Pas du tout. Ils s'y ruent avec enthousiasme. Et il y a aujourd'hui, en Chine, une classe moyenne déjà très importante. Le PNB de la Chine, c'est plus de 8 000 milliards de dollars, et il rattrapera celui des États-Unis en quelques années.
Et ils se sont d'ailleurs rués dans la mondialisation. Quels sont les défis qui attendent la Chine au XXIe siècle ?
Alors, la Chine à gérer plusieurs problèmes. D'abord, elle va d'abord devoir régler son problème démographique, car la politique de l'enfant unique va aboutir à un vieillissement accéléré. Le gouvernement chinois a donné des inflexions en sens contraire. Mais la Chine sera moins peuplée que l'Inde d'ici quelques décennies. C'était d'ailleurs raisonnable de la part de la Chine de stopper une croissance démographique excessive qui l'aurait empêché de se développer. L'autre problème est lié au fait que la Chine doit trouver des approvisionnements, notamment dans le domaine des hydrocarbures, des minerais, des terres, de la nourriture, et par conséquent, elle influe sur le marché mondial, sur le cours des matières premières. Elle est maintenant présente non seulement en Asie centrale, mais en Afrique, en Amérique latine, dans le monde entier. Donc voilà, c'est une grande puissance qui va prendre sa place, c'est-à-dire c'est à peu près 20% de la population mondiale, même peut-être un tout petit peu plus. Disons que voilà, le fait que la Chine, qui devait être 1 ou 2% de la richesse mondiale, va tendre vers 20%, ça va perturber pas mal de choses sur le plan économique. Alors en même temps, la Chine doit gérer son rapport avec les États-Unis, la méfiance qu'elle suscite chez certains de ses voisins. Je pense par exemple au Japon, mais aussi au Vietnam, à l'Inde. Donc il faut que la Chine gère sa montée en puissance avec prudence. C'est le conseil que lui donnait Deng Xiaoping quand il a fait ses grands choix d'ouverture, les quatre modernisations, enfin au début des années 1980. Un proverbe qui donne souvent la forme de proverbe à leur pensée. Un proverbe dit, et Deng Xiaoping est son auteur, quand on veut traverser la rivière, il faut savoir tâter les pierres. On dit souvent tâtonner, mais c'est tâter les pierres pour savoir où on met le pied. Mais voilà un conseil de prudence qui, je l'espère, sera suivi par les dirigeants chinois, parce que il faut qu'ils gèrent avec modération les conflits qui pourraient naître, notamment de la question de la souveraineté sur tel ou tel îlot de la mer de Chine. Enfin, voilà, la Chine considère que jusqu'à un certain point, la mer de Chine, c'est la mer de Chine, c'est-à-dire que c'est la sienne, hein, c'est-à-dire jusqu'à la première rangée des îles. Mais si on les laissait faire, peut-être ce serait jusqu'à la deuxième rangée. Mais je pense que voilà, il y a un équilibre à trouver et il faut faire confiance à l'intelligence qui est grande des dirigeants chinois pour ne pas se laisser entraîner dans des provocations inutiles.
Demain peut-être, un G2 Chine-États-Unis pourrait dominer le monde. Quelle place pour l'Europe des nations dans un monde plus que jamais globalisé ?
Je crois que ce qu'on appelle le G2, le rapport entre la Chine et l'Amérique, la Chine-Amérique, tout cela, c'est à la fois un partenariat peut-être, mais c'est aussi une rivalité. Et nous pouvons faire les frais de cette rivalité ou de ce partenariat. Et il est important que l'Europe s'organise. Je propose qu'elle le fasse sur la base des nations, parce que là est le ressort de la démocratie et qu'on ait comme objectif une grande confédération de peuples libres allant de la Méditerranée à la Russie, qui nous permettent d'exister pacifiquement dans un monde multipolaire qui serait à la fois à l'avantage d'ailleurs des États-Unis et de la Chine, parce que ces deux grands pays n'ont pas intérêt à se laisser enfermer dans un tête-à-tête mortifère.